Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thunes, vous savez qu'on a besoin de thunes. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez thunes, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant Thunes Podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thunes continue, je compte sur vous.
Thunes, le premier podcast intime sur l'argent.
Et je ne doute pas hein, que dans les services qui s'occupent des stupéfiants, comme on n'a pas de moyens et que par moment il faut aller s'acheter soi-même son micro, sa balise, son truc, son machin, etc., etc. Bon, bah, je veux dire, à un moment donné, l'argent de la drogue, elle sert aussi à payer des moyens pour que les policiers puissent travailler. Mais une fois qu'on rentre là-dedans, bon, et bah, de temps en temps, c'est 50 balles par-ci, 50 balles par-ça, et puis on va déjeuner, et puis voilà.
Vous aimez les flics ? Ou vous n'aimez pas les flics ? Dans tous les cas, cet épisode est pour vous. Parce qu'ils sont 150 000 en France, qu'ils viennent de tous les milieux, qu'ils vont partout, que leur présence scande et structure notre vivre ensemble et qu'ils ne parlent jamais d'argent. Pour une raison très simple d'ailleurs, les flics ne parlent pas. Ils sont soumis au fameux « devoir de réserve ». Agnès Naudin, capitaine de police, accepte pourtant pour thunes d'aborder tous les sujets. Salaire, avancement, prime, politique du chiffre, corruption, abus de pouvoir. Du commissaire au CRS, des stupes à la BAC. Comme elle le dit elle-même, dans la police, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Agnès Naudin. Agnès, tu as 38 ans et tu es flic, ou plus exactement, capitaine de police.
Oui, tout à fait.
Alors, on va d'abord un peu revenir sur ton parcours. Alors, t'es née où ? T'as grandi où ? Et ils faisaient quoi tes parents ?
Alors, je suis née dans le 92, j'ai vécu dans le 78, donc dans des banlieues bourgeoises, on va dire, de la région parisienne. Mon père, il était cadre supérieur, puisqu'il travaillait en banque et puis il travaillait dans la finance. Donc, on était dans une famille qui était assez aisée. Et ma mère est infirmière.
Alors, tu viens de sortir avec Fabien Bilran un ouvrage qui s'appelle « Police, la loi de l'omerta », qui collecte de nombreux témoignages de policiers. Et un truc qui m'a frappé dans ce livre, c'est que tous les profils qu'on découvre, tu es quasiment celui qui a les parents les plus bourgeois, en quelque sorte. Y a beaucoup de gens qui parlent, il y a une douzaine de flics qui racontent des choses qui leur sont arrivées, un peu comme des lanceurs d'alerte. Et souvent, leur enfance est mentionnée. Et j'ai noté que leurs parents, c'est, par exemple, alors il y a chaudronnier, contrôleuse à la RATP, mère au foyer, ouvrier dans le bâtiment, employé de pressing ou même mineur. La police, c'est un moyen d'ascenseur social pour les gens qui y rentrent ?
Pour être gardien de la paix, il faut avoir le bac, donc pas forcément avoir fait d'études. Donc effectivement, on va retrouver, je pense, des jeunes qui sont issus de classe moyenne, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Pour les officiers et pour les commissaires, il faut entre bac plus 3 pour les officiers et bac plus 5. Donc généralement, et ça on le sait, c'est pas une surprise, ceux qui font des études soit arrivent à se les payer en faisant des boulots à côté, etc., etc. Et je leur tire mon chapeau parce que c'est souvent difficile.
C'est des concours hein, pour être commissaire.
C'est des concours. Et... Oui, tout à fait, c'est des concours. Mais je veux dire, les études, il faut quand même les avoir faites. Dans les officiers et les commissaires que j'ai pu croiser, la plupart, en règle générale, sont issus des classes favorisées.
à l'intérieur de la police, tu peux gravir les échelons.
Quand tu veux, comme tu dis, gravir les échelons, tu passes de corps en corps. Donc, quand tu veux être gardien de la paix et que tu veux devenir officier, bah, tu passes un concours. Et ils sont très difficiles, ces concours-là. Et en plus, donc là, on va parler de thunes, quand on repart en école, parce que la rémunération d'un policier, quel qu'il soit, il y a la rémunération brute, c'est-à-dire le traitement brut mensuel, et il y a plein de primes. Et tu as un tiers de ta rémunération, en gros, qui est composé de primes et que tu perds. Donc, quand tu repars en école, que tu perds un tiers de ton salaire, et qu'en plus de ça, généralement, l'école n'est pas à côté de ton domicile, et que du coup, tu dois faire plein d'allers-retours pour aller rejoindre ton domicile le week-end, c'est un vrai engagement financier. Et ça, par exemple, je sais qu'il y a des gardiens de la paix ou des officiers qui ne passent pas les concours, parce que ça, ils ne pourraient pas, je veux dire, dans leur situation particulière, ils ne pourraient pas le supporter.
C'est trop cher.
Exactement.
Alors, est-ce que chez toi, vous parliez d'argent quand tu étais petite ?
Oui. Alors, on en parlait parce que, parce qu'en fait, mon père, étant banquier et avoir une formation de comptable, il était assez, il était hyper sévère là-dessus. C'est-à-dire que quand j'ai été en âge, entre guillemets, d'avoir un budget, c'est-à-dire à 18 ans, c'était très, très, très calculé, très chronométré. Mais mes parents ont toujours tenu à ce qu'on ait cette notion de l'argent et qu'on travaille très tôt. Moi, j'ai commencé à travailler à 18 ans. Je bossais pendant mes études, que ce soit l'été, mais aussi, j'ai été hôtesse d'accueil pendant 5 ou 6 ans, au moins. Money, money. J'ai toujours voulu bosser dans la police. Ça, c'était depuis toute petite. Depuis toute petite. Donc, 18 ans, je ne me pose pas de questions. Je m'inscris à la faculté de droit à Nanterre. Voilà. Et pendant mes années d'études, j'étais à l'époque avec quelqu'un qui n'aimait pas les flics. Et donc, du coup, je me suis dirigée vers d'autres possibilités ou d'autres métiers, notamment les avocats. Et donc, quand j'ai passé les concours d'avocat la première fois à l'issue de mon DEA, donc de mes 5 années de droit, je ne l'ai pas eu. Et là, ma mère m'a dit, tu as 23, 24 ans, tu as déjà fait une expérience à 5 ans de droit, tu ne vas pas rester à la maison, on ne va pas te supporter financièrement pendant encore je ne sais pas combien de temps, donc maintenant, tu vas te mettre à chercher un boulot, entre guillemets, stable et sérieux. Et donc, j'ai négocié durement, parce que je leur ai dit, quand je suis revenue, finalement, le concours d'avocat, non, je vais revenir à ce que je voulais faire, c'est-à-dire passer le concours d'officier de commissaire. On reprend les études. Et j'ai réussi à négocier en fait avec mon père qui m'a dit « Ok, je continue pendant un an. Tu peux rester à la maison, on te finance et tout. Mais tu mets un pied dans le monde du travail, tu te débrouilles 2-3 jours par semaine, tu te démerdes. » C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai trouvé un boulot d'assistante de justice à la Cour de cassation. Et ce n'était pas tant ce que j'étais payée parce que j'étais payée 400 balles par mois. Donc, je faisais ça à la cour d'appel de Paris, pôle terrorisme et bande organisée. Donc, je travaillais là-bas 2 jours par semaine. Et en même temps, je faisais l'Institut de criminologie au Panthéon et je passais les concours. Voilà, j'ai beaucoup bossé cette année-là. Et puis ensuite, j'ai eu le concours et je suis rentrée dans la police.
Et tu es devenue donc... Alors, quel est ton grade quand tu rentres ?
Officier de police, lieutenant.
Lieutenant.
Voilà.
Voilà.
J'ai 18 mois d'école.
Ah, 18 mois d'école.
Bien relou. Donc là, tu tapes 18 mois à Canécluse. Alors Canécluse, ça ne dit rien à personne, mais c'est dans le 77, Seine-et-Marne. C'est dans un trou paumé. Donc là, il y a un an et demi où tu es payé, parce que dès que tu rentres dans l'école, tu as un contrat, tu es payé. Je crois que mes premiers salaires, ça devait être quelque chose comme 1 300 €. Et puis au bout de 18 mois, tu sors de l'école. Et puis là, c'est parti. Et effectivement, mon premier poste en sortie d'école, c'était Roissy, Charles de Gaulle.
Et tu te retrouves à Roissy. Alors, petit point, j'ai cru comprendre que les premières mutations, les premiers postes qu'on donne à choisir aux gens qui entrent dans la police, c'est Paris ou Paris un peu, hein. C'est région parisienne ou région parisienne apparemment.
C'est ça. Ça, c'est vrai pour les gardiens et les officiers. Pour les commissaires, beaucoup moins, parce que les postes de commissaire, il y en a partout en France et qu'ils sont obligés de bouger tous les 4 ans, en moyenne, on va dire. Et donc, on peut se retrouver en sortie d'école de commissaire et avoir un poste à Nîmes, par exemple. Quand on est officier, c'est Paris, région parisienne, 93, 94, les postes où généralement, qui sont les postes difficiles, parce que souvent, les officiers n'y restent pas. Et donc, c'est des postes qu'on ouvre en sortie d'école.
Commissaire, c'est vraiment le haut du panier.
Oui. C'est ce commissaire, c'est le plus haut grade dans la police. Voilà. Il y a les gardiens, ouais. Ensuite il y a les officiers, qui sont le corps des officiers, lieutenant, capitaine, commandant. Et ensuite, il y a le corps des commissaires. Commissaire, commissaire divisionnaire, etc., etc., etc.
Apparemment, tout ça va avec une amplitude de salaire, enfin en tout cas de revenus,
oui.
Qui est énorme.
Ouais. Mais si on reprend par mois, par exemple, là, je suis capitaine de police au 6e ou 7e échelon, je crois. Et moi, je reçois 3 200 € par mois, ce qui est énorme pour un... Enfin, ce qui est énorme, ce qui est... bien payé pour un fonctionnaire quand même. Catégorie A certes, mais ouais. Et je ne suis entre guillemets que capitaine. Ça veut dire qu'un gardien de la paix, qui est gardien de la paix depuis une dizaine d'années, il doit bien gagner à mon avis entre 2 200 et 2 200 €. Et un commissaire, lui, il est plutôt autour de 4 000, 4 005. Et les commissaires en fin de carrière peuvent finir leur carrière à 7 000, 8 000 €. Les commissaires sont mieux payés que les préfets.
Alors, quand tu arrives en région parisienne, à ton premier poste à Roissy, toi, tu te retrouves déjà confronté à des personnes avec des revenus et des façons de vivre très, très disparates. Donc, toi, tu es déjà officier.
Oui.
Donc, tu dois être au milieu, en quelque sorte.
C'est ça. Moi, quand j'arrive à Roissy, je suis donc toute jeune officier. Hein, j'ai 26 ans et je me retrouve, en gros, à manager entre 70 et 120 personnes. Alors après, dans les grades, quand je démarre jeune lieutenant... Bien évidemment, je suis moins payée que des gardiens qui sont devenus brigadiers chefs ou majors, qui, eux, gagnent beaucoup plus que moi.
Donc, ils peuvent être en dessous de toi, mais ils gagnent plus que toi.
Oui, tout à fait. Bah, c'est normal. Eux, ouais. Ils sont à 20 ans de carrière ou 10, 15, 20 ans de carrière et moi, je viens de débuter. Donc, ça, c'est pas...
Les gens parlent de thunes dans les commissariats ou au boulot ?
Ah ben c'est le nerf de la guerre, en fait. Donc, ça parle de thunes. Alors, pas forcément des salaires, parce que ça, on les connaît tous. Hein, les salaires, ils sont affichés. Enfin, c'est des trucs qui sont publics.
Il y a des grilles.
Il y a des grilles, exactement, des grilles indiciaires. C'est pareil dans toute la fonction publique, en règle générale. Donc, les policiers n'y échappent pas. Après, on parle de thunes quand il s'agit des primes, parce que ça, c'est de l'argent. Et donc, forcément, ça crée des dissensions et des problèmes. Et
bon, on va y revenir, parce que c'est un gros chapitre, les primes. Hein.
Voilà, les primes. Il y a aussi les facilités qu'on peut avoir. Donc, quand on a de la chance d'avoir un restaurant administratif, par exemple, ça, c'est des facilités d'accès financières aussi, qui ne sont pas valables partout sur tout le territoire. Ensuite, il y a les temps de trajet, temps de transport. Donc, quand vous êtes à la PAF, alors ça, c'était un gros sujet, à la PAF, police aux frontières à Roissy-Charles-de-Gaulle, on avait un régime cyclique qui était le 2-2-3. Donc, 2-2-3, c'est-à-dire que tu travailles 2 jours, tu es de repos 2 jours, tu travailles 3 jours, et donc, c'est un cycle qui tourne sur 15 jours. Et la plupart de ceux qui étaient à Roissy-Charles-de-Gaulle venaient du Nord. Donc, quand ils viennent du Nord et qu'ils sont en célibat géographique, ils louaient des chambres, généralement avec d'autres qui étaient dans d'autres groupes. Et donc, en fait, ils étaient généralement 2 ou 3 par appart.
Et ils se relayaient.
Et ils se relayaient, exactement, parce que ça coûtait très cher. Ou alors, ils montaient à 15 dans les voitures pour pas payer les péages, pour l'essence, pour partager, en gros, tout ça.
Pour pouvoir revenir dans le Nord dans les jours off.
Pour revenir dans le Nord dans les jours off, exactement.
Et garder un appart là-bas, éventuellement
Avoir une maison, avoir une vie de famille ailleurs. Donc, l'argent, c'est un truc hyper prégnant, bien sûr. Et ça, c'est pas... je parle de Roissy, mais je suis sûre que c'est valable sur plein d'endroits, en fait, dans le territoire.
Ton co-auteur du livre, quand il mentionne son début de carrière, donc, où on lui donne le choix, donc, comme à beaucoup de policiers, entre Paris ou Paris, il mentionne aussi le fait que lui, il est, je crois qu'il n'est pas officier quand il commence.
Ah, pas du tout. Il n'est même pas officier quand il termine, d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs, voilà. Et donc, il a un salaire bien moindre. Oui. Et aller en région parisienne, c'est un vrai problème. Financièrement.
C'est un enfer. Ouais. Après, il y a des aides. On a des facilités pour trouver des logements, par exemple, qui sont attribués par les préfectures. Parce qu'à l'époque, on appelait ça la cité des flics. C'était des endroits dans lesquels, que ce soit des HLM ou autres, où il y a certains appartements qui sont réservés pour des fonctionnaires, quels qu'ils soient. Donc, c'était pas que des flics. Maintenant, après, ça tourne vite. Hein, quand il y en a qui sont les logements qui sont réservés pour le ministère de l'Intérieur, c'est des flics qui remplacent des flics, etc. etc. Sauf que généralement, ça posait problème, et ça, on en a souvent parlé, parce que ça pouvait être, comme c'est au milieu des HLM, c'est dans les cités. Et donc, du coup, tu vis au même endroit que ceux que tu croises ou t'arrêtes dans la journée. Voilà, ça crée des problèmes.
Oui, et donc, j'imagine que les fonctionnaires concernés n'ont pas du tout envie d'aller vivre là-bas.
Non, donc ils le font pas. Alors, ils vivent plus loin. Au tout début, quand je travaillais à Roissy, je vivais à Bougival, dans le 78, ce qui n'était quand même pas à côté. Alors, loin de transport, loin des commerces, donc ce n'était pas pratique. Voilà, ce n'était pas raccordable à un RER ou autre. Je n'aurais pas pu vivre là et travailler dans Paris, ça aurait été plus compliqué. Mais bon, à Roissy, je prenais ma voiture. Et puis bon, après, en histoire de thunes, du coup, quand tu fais tes calculs pour payer les impôts, tous les frais de déplacement que tu fais, tu le comptabilises. Et c'est ce qui m'a permis de ne pas payer d'impôts pendant un certain temps parce que, étant mère célibataire avec un enfant, en ayant quasiment, je ne sais plus combien ça faisait de kilomètres. Et donc, du coup, j'avais des frais professionnels qui étaient tels qu'au final, j'ai pas payé d'impôts pendant, je pense, les 10 premières années de ma vie professionnelle. Donc, la thune, bien évidemment, qu'on en parle et que, voilà, et que ça reste des difficultés, effectivement, pour se loger, des difficultés de transport.
Beaucoup de flics, apparemment, enfin certains flics, ont parfois deux métiers. Il y a l'idée qu'on peut être policier et avoir un travail en plus pour beaucoup de budget.
Ben, c'est pas déclaré. Il y a certaines activités qu'on a le droit de faire. Moi, par exemple, quand je me suis mise à écrire, les droits d'auteur, c'est une possibilité. Tout ce qui est lié à l'artistique,
t'as le droit d'être peintre, sculpteur et policier.
Exactement, voilà. Tout ça, c'est possible. En revanche, être policier et travailler dans une agence de sécurité privée, ça, c'est pas possible. Donc, généralement, ceux qui le font, ou des ménageurs, parce que ça, c'est un truc qu'ils font régulièrement aussi, déménager, construire des cuisines. Il y en a beaucoup qui ont ces dons manuels et qui...
En plus, c'est souvent des hommes. Hein. On précise que la police, donc, tu me disais, c'est 70% d'hommes.
Ah, oui, en moyenne, 70% d'hommes.
On voit dans le livre qu'il y en a beaucoup qui ont, dans leur parcours, éventuellement un très bon niveau physique, avec une pratique du sport très régulière. On est sur des bonhommes. Donc évidemment, ça peut aider quand on veut faire déménageur ou
tout à fait. Et ça, ils le font, mais ils le font effectivement pour mettre du beurre dans les épinards, mais c'est pas déclaré. Donc non, ils n'ont pas le droit de le faire à l'origine.
Et il y a une tolérance par rapport à ces deuxièmes emplois ?
Ah bah pas du tout.
Non, ils le planquent vraiment.
C'est un truc qui est planqué. Ah oui, non, c'est un truc qui est su, mais qui est pas su. En fait, c'est-à-dire que tout le monde le sait, mais en réalité, il n'y a pas vraiment de contrôle qui est fait là-dessus.
Alors, autant les rémunérations peuvent être assez hautes, comme tu viens de le dire, mais à l'inverse, on voit des conditions de travail qui peuvent être catastrophiques. Hein, en termes de locaux, de véhicules, ton co-auteur parle de véhicules qui ne passent pas le contrôle technique, de gilets pare-balles périmés, on trouve des cafards, c'est hallucinant en fait.
Alors, dans les difficultés, c'est-à-dire qui sont liées au travail dans le quotidien, il faut quand même rappeler que sur 150 000 flics, on va marcher en dégressif, il y a 1500 commissaires, il y a 8000 officiers. Ouais. Donc, on va dire 10 000 officiers commissaires confondus. Et donc, sur les 150, tu regardes, il y a 140 000 gradés, gardiens de la paix. Voilà.
Donc, des gens qui sont entre 1300, 1400 et 2500.
À peu près, ouais. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais on est à peu près là-dessus. Ouais. Mais ce qui, en soi, quand on regarde combien sont payés, par exemple, les professeurs, on fait partie de ceux qui sont les mieux payés dans la fonction publique. On est même mieux payés que les gendarmes. Je ne dis pas que c'est suffisant. Je dis qu'on est, je crois, de mémoire, les mieux payés dans la fonction publique. Après, effectivement, on fait valoir la difficulté du métier, etc. etc. Bon, moi, perso, je préfère être flic que d'être maîtresse. Maîtresse d'école, pour moi, ce serait un enfer. Donc, la difficulté, elle est aussi en fond. C'est très subjectif, quelque part, la difficulté. Bon. Maintenant, la difficulté des policiers, c'est plutôt la dangerosité, on va dire, du métier, des risques qui sont pris, etc. etc. Donc,
tu peux te faire tuer, blesser.
Voilà. Ça revient battu. Les mutuelles coûtent cher parce que forcément, ayant justement toutes ces difficultés qui sont liées à la mission même de policier, il y a des complémentaires ou il y a des mutuelles, mais elles sont très chères parce que c'est des primes d'assurance justement pour couvrir cas d'accident, machin, etc. Ah bah oui, bah non, ça c'est pas l'État qui paye, donc ça c'est nous qui le faisons. Donc il y a ça. Et après sur la difficulté au quotidien de vivre dans des locaux comme tu dis qui sont vétustes, etc. Ça a été beaucoup l'objet des manifestations des policiers en colère en 2016. Il y a un énorme effort qui a été fait là-dessus. Il n'y a pas à le nier. Et c'est vrai, il y a beaucoup de locaux qui ont été refaits. Il y a eu des dépenses de fonctionnement qui ont été faites dans ce sens-là. Des véhicules tout neufs. Là, maintenant, on en voit partout. Enfin, je veux dire, voilà, le parc des véhicules a été complètement refait à neuf. Alors, il y a encore des services qui sont en souffrance, mais c'est beaucoup moins général que ça l'était avant. Et après, la Cour des comptes, ça, dans son dernier rapport, elle a estampillé le... Je pense qu'il y a une mauvaise gestion, en fait, de ces ressources-là. Parce qu'on a une augmentation du budget pour la police qui, je crois, de mémoire, est de 6%, ou en tout cas, il y a eu 6% de fonctionnaires en plus, ce qui est énorme dans la police, sur la dernière LOPMI. Mais pour autant... Je ne suis pas sûre qu'on soit plus efficace.
Toi, ça t'a choqué parfois dans les endroits où tu travaillais ?
La vétusté des locaux ne m'a pas particulièrement dérangée. Aussi parce que j'avais un bureau. J'étais officier, donc j'avais un bureau que je partageais avec mon adjoint. Mais au moins, j'avais un espace qui était à moi. Quand on était à l'unité locale d'éloignement, on avait tous les escorteurs qui venaient, tous les agents de la pénitentiaire qui venaient raccompagner les étrangers qui devaient être reconduits à la frontière.
C'était ça le gros de ton travail hein.
Ça, c'était, je gérais cette unité-là. Ouais. Et effectivement, on avait deux ou trois fabriqués de merde en bordure de piste. Mais c'était... hyper pratique, parce que nous, on avait un accès aux pistes qui était direct. Et donc, par la suite, ils ont changé les locaux. Je ne les ai pas vus parce que je suis partie avant. Mais ils se sont retrouvés dans un ancien centre de rétention administratif de Roissy. Donc là, ils ont des locaux tout neufs. Mais ils râlent encore parce que du coup, c'est plus loin des pistes. D'accord. Et qu'ils n'ont plus un accès direct aux pistes et que du coup, ils ne se déplacent plus aussi rapidement, etc. etc. Donc, il y a toujours... on n'est jamais content. Ça, c'est le propre... alors, pas des policiers, je pense que c'est le propre des Français. Hein, on est toujours là pour râler. Mais voilà, donc il y a un effort qui a été fait là-dessus.
Quand tu es aux frontières, tu te retrouves, j'imagine, à raccompagner des gens qui sont en tentative d'immigration en France, qui viennent souvent parce qu'ils sont assez misérables. Est-ce que c'est un truc qui a pu te toucher personnellement,
J'en suis partie pour ça, parce que quand j'étais en aérogare à Roissy, c'était effectivement beaucoup de procédures d'asile et de contrôle d'immigration, on va dire, classique, qui était une partie du métier, mais j'ai trouvé, en tout cas pour ma part, que c'était pas aussi difficile que l'éloignement des étrangers. À l'unité locale d'éloignement, t'es à la fin du parcours. Ce sont ceux qui doivent être éloignés, qui sont en prison et qui ont des interdictions du territoire. Ça, c'est pas très compliqué de les renvoyer chez eux. En tout cas, moi, j'ai moins de problèmes avec ça. En revanche, t'as tous les étrangers en situation irrégulière, qui sont là depuis un certain temps sur le territoire, qui ont des obligations de quitter le territoire qui leur ont été délivrées, qui sont passés par des centres de rétention, tout ce qu'on veut, et qui sont en fin de parcours. C'est-à-dire que là, on va vraiment les renvoyer dans leur pays. Quand tu te retrouves avec des femmes, avec des enfants, parce qu'il y en avait, hein, de manière, c'était pas quotidienne, mais il y en avait quand même de manière régulière. Je me suis déjà vue arracher un bébé des bras de sa mère parce que elle menaçait de le tuer si jamais elle rentrait au pays. Donc, dans des situations, on va dire, très difficile et
de crise extrême,
tendu ouais. Et quand c'était pas ça, ils s'ouvraient les veines pour ne pas repartir, ils se déféquaient dessus, ça arrivait aussi de manière assez régulière. Et donc tous ces incidents, puisque c'est comme ça qu'on les appelait, il fallait les gérer et voilà, ça c'était aussi le rôle de l'officier. Et en fait, quand j'ai eu mon petit garçon, Telio, là c'est devenu beaucoup plus difficile de voir ces femmes débarquer avec les enfants et voilà. Et donc au bout de... J'y suis restée 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'en suis partie. Et là, je suis arrivée au Bourget.
Alors, le Bourget, on décrit un peu ce que c'est que le Bourget. C'est un aéroport pour des avions privés.
C'est ça. Aviation civile, pas commerciale. Donc, c'est de tous les jets. Donc, c'est tous les patrons du CAC 40. C'est tous les étrangers qui viennent avec leur jet privé. Donc là, on est vraiment dans un univers on ne peut même pas l'imaginer.
On voit bien l'énorme amplitude, en tout cas, dans ton parcours, auquel on peut être confronté quand on est policier.
Quand on a vécu et quand on a été élevé dans un milieu bourgeois, c'est beaucoup plus facile de s'adapter. Forcément, au Bourget, c'est des métiers de représentation, parce que là, on a... Enfin, je veux dire, il ne faut pas faire un faux pas.
Est-ce que c'est plus facile ou est-ce que c'est plus dur?
Ah, c'est plus chiant. Ah non, c'est un enfer. Parce qu'il y a un niveau, entre guillemets, d'exigence. Et puis souvent, les gens sont assez dédaigneux, hautains. Moi, je j'aimais pas. Le nombre de fois où je me suis retrouvée avec les équipes du PSG à devoir accompagner sur les pistes. Pas un bonjour, pas un merci, pas un au revoir. Enfin, c'est sans arrêt. Pas de sourire aussi beaucoup. C'est un univers qui est hyper individualiste, finalement. Ouais, à l'ULE, à l'unité locale d'éloignement, ou même quand on était à Roissy, là, on est dans le commun des mortels et les gens sont patients, pas toujours après, souriants, et à partir du moment où on les traite correctement, ils le font aussi. Donc,
il y a peut-être plus d'humanité.
C'est ça, exactement.
Mmh.
que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Globalement, il y a quand même un bon tiers, j'ai l'impression, du revenu des policiers qui vient de ces fameuses primes.
Alors, dans les primes, ce qu'on appelle les primes, par exemple, moi, en tant qu'officier, j'ai une prime de commandement qui évolue. Hein, elle est de plus en plus forte en fonction du grade et en fonction de l'échelon. Donc ça, ça fait partie des primes qui tombent tous les mois. Ensuite, dans ce qu'on va appeler la course aux résultats, il y a les primes individuelles et collectives qui sont délivrées tous les ans par les services. Et donc là, prime collective, c'est pour un groupe qui a bien travaillé. Et puis prime individuelle, c'est pour une personne qui est récompensée par son activité. Alors, et là, on ne parle pas de... Ce n'est pas des primes de 10 000 euros. Hein, on n'en est pas... Enfin, pour les commissaires, peut-être. Alors ça, c'est un grand sujet tabou. Parce que les commissaires ont aussi une partie de leur rémunération qui est facture des primes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... ça n'est pas public.
Le sous-texte de plusieurs témoignages dans ton livre, c'est qu'on a l'impression que bon, la politique du chiffre est quelque chose qui peut être mal vécu par, en tout cas, certaines des personnes qui témoignent. La fameuse politique du chiffre qui pousse à plus de résultats, mais qu'il y a une chaîne de hiérarchie qui suit une chaîne de primes. C'est-à-dire que le mec en bas va avoir une petite prime s'il fait bien les chiffres, et le mec en haut, au-dessus, et notamment le commissaire peut-être, va avoir beaucoup plus de primes, en fait.
C'est ça. Et la petite prime, enfin moi, à l'époque, par an, c'était quelque chose comme 500 euros. Donc, une prime individuelle, c'est 500 euros.
La
prime collective,
hein,
oui, c'est pas mal. Mais après, c'est pas... Enfin, voilà, ouais. On démarre. Donc, le bas de l'échelle, ouais. C'est 500 euros. Après, dans les primes collectives, je sais pas, 100, 200 euros par personne. Donc là, beaucoup moins. Alors, et après, donc ça, c'est pour les gardiens. Pour les officiers, moi, j'en ai jamais eu. Donc, je sais pas de combien elles étaient. J'en sais rien. Je pense que ça devait être peu ou prou la même chose. Et en revanche, pour les commissaires, pendant longtemps, ça a fait partie de leur rémunération. Donc eux, ils avaient une partie, en gros, ils avaient une partie fixe et puis une partie qui relevait des objectifs. S'ils remplissaient leurs objectifs, ils avaient droit à ces primes-là. Ça a été réduit. Ça, je sais que c'est quelque chose qui a été modifié parce que justement, ça a fait couler beaucoup d'encre. Mais je sais qu'il y a encore des primes qui sont sur leurs résultats. Il y a une opacité, c'est-à-dire que nous, on ne sait pas ce qu'ils gagnent, mais entre commissaires, ils ne savent pas non plus. Donc ça, c'est vraiment le sujet tabou. Le seul truc dont on a tous parlé à l'époque, c'est quand M. Guéant s'est fait attraper parce qu'il avait tapé dans la caisse, c'était la caisse des primes. Et cette année-là, effectivement, les officiers et les commissaires étaient vénères parce qu'ils n'avaient pas eu de primes. Voilà, M. Guéant était passé par là. Pour les gardiens de la plaie, on appelle ça des mises à disposition. Donc quand, par exemple, t'es un mec qui travaille à la BAC et que tu ramènes quelqu'un au commissariat parce qu'il a fait telle ou telle infraction, c'est ce qu'on appelle une mise à disposition. Eh bien, plus tu fais de mise à disposition, plus tu fais du chiffre, et plus ton chef est content. Et si ton chef est content, dans ces cas-là, c'est peut-être toi qui auras la prime. C'est très simple, en fait. Sauf que dans le privé, c'est la même chose. Dans le privé, c'est quantifiable, c'est fait différemment. Si vous arrivez, je sais pas, on peut en parler des primes dans la banque aussi. Ma sœur, elle est banquière, donc souvent on en discute. Elle a une rémunération fixe et puis il y a le variable. Et le variable, il est en fonction d'objectifs. Et ses objectifs, c'est si tu fais signer tant de contrats par. Voilà.
Donc, d'assurance, de.
Exactement. Après, comment est-ce qu'on évalue le travail du policier? Parce que nous, on ne produit rien. On ne produit pas d'objets. On produit un service. Et le problème, c'est que ce service-là, on va préférer le calculer en fonction des infractions donc constatées et des infractions réprimées. Ce qu'on appelle la bâtonnite, hein, c'est ça, c'est infraction constatée, un bâton, infraction réprimée par un magistrat ou autre, un bâton. Et bien, plus on a de bâtons dans les deux cases, et entre guillemets, meilleur c'est. Après, celui qui va passer une heure à prendre des plaintes, ben, lui, on n'en a rien à foutre qu'il passe une heure à prendre une plainte. Celle qui va passer quatre heures à écouter une victime de viol, bon, ben, c'est pas grave, hein, les viols, faut savoir, ça fait pas partie des choses qui sont, entre guillemets, mis à l'honneur ou qui sont... je sais pas.
Oui, l'écoute n'est pas forcément valorisée, le temps.
Non, l'écoute et le temps fonctionnaire passé sur certaines infractions, et notamment sur les infractions des atteintes aux personnes, ne sont pas valorisés. Parce que c'est beaucoup plus facile de dire on a un trafic de stupéfiants, on a arrêté un consommateur, infraction constatée, il aura sa sanction, infraction réprimée.
Deux bâtons,
voilà, exactement, ça c'est facile. Et puis dans le trafic de stupes, voilà, c'est plus vous en avez, et meilleur c'est parce que. Plus vous en avez, le commissaire, lui, se dit, sur ce mois-ci, j'ai fait tant de consommateurs ou tant d'infractions relatives aux stupéfiants. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de trafic sur mon territoire. Et donc, s'il y a beaucoup de trafic, ça veut dire que j'ai besoin de plus de moyens, de plus de personnes. ça, on en revient à la même chose, c'est le nerf de la guerre. Donc, en fait, c'est la politique pénale en haut lieu qui va déterminer l'action du policier et donc la manière dont on va mettre en œuvre et rémunérer, quelque part par les primes. Ouais. Exactement.
Alors, on voit qu'il y a de la triche dans les deux cas. Hein, dans ton bouquin, ça m'a frappé. Il y a d'un côté des brigadiers qui s'arrangent pour faire semblant de travailler pendant que le commissaire n'est pas là. Ça arrive dans un commissariat. Et de l'autre côté, effectivement, des commissaires qui poussent quasiment leurs agents à inventer des points de deal là où il n'y en a pas, avec des consommateurs qui ont l'air d'avoir même pas 2 grammes de shit sur eux, pour montrer qu'on mérite les primes.
Il y a des fonctionnaires qui sont hyper motivés. Effectivement, souvent, on entend qu'en province, c'est moins le cas, parce qu'une fois qu'ils sont arrivés, qu'ils ont tenu leur mutation et qu'ils arrivent en province, ils ne bougeront plus jamais de leur vie. Et souvent, d'ailleurs, les jeunes qui arrivent en province trop tôt, c'est très difficile pour eux parce qu'ils ont encore la niaque, ils ont encore l'envie et paf, ils se font stopper parce qu'ils travaillent avec des gens qui, eux, n'ont pas envie de bosser. Ça, c'est clairement le cas. Et puis, moins on travaille, moins on a envie de bosser, et c'est humain. Après, sur le que ce soit les commissaires ou les officiers, pour le coup, je connais peu... ils sont tout le temps là, ils sont présents. Après, je ne dis pas qu'ils sont efficaces, mais en tout cas, ils sont là. Et les commissaires, bien souvent, eux, ils sont là tout le temps, corvéables, à merci. Alors, ils ne sont pas forcément là pour les gardiens de la paix, mais pour en connaître un certain nombre, c'est pas parce qu'ils ne sont pas dans leur bureau qu'ils sont chez eux à se tourner les pouces. Ils sont bien payés, mais ça le mérite parce que franchement, ils ont vraiment des boulots à la con. Donc, je dis boulots à la con parce que c'est passer son temps à éteindre des feux, à recevoir des réprimandes, à se faire cartonner par le préfet parce qu'il y a un problème, à se faire cartonner par le procureur parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, c'est un métier, le métier de commissaire de police. Je ne sais pas s'il mérite d'être aussi bien payé, mais en tout cas, je pense que c'est un métier qui est vraiment, vraiment pas facile. Parce qu'en plus, ils n'ont pas la même reconnaissance que les préfets, par exemple. Et ils n'ont pas les mêmes moyens et ils n'ont surtout pas les mêmes pouvoirs. Parce que le commissaire, au final, il est chef de son service, mais il est chef de rien parce qu'il a un pouvoir de décisionnaire qui est quasiment réduit à néant. Donc, ce qui est très frustrant d'ailleurs pour eux. Et ça, c'est encore multiples choses à changer dans les structures.
Est-ce qu'il y a des primes plus élevées pour les gens qui prennent des risques physiques ?
Aucune idée, non. Non, je sais pas. Après, les CRS, ils ont plein de primes parce que eux, ils sont. C'est pas pour les risques physiques, c'est surtout pour l'éloignement. C'est parce que eux, ils sont 3 semaines par mois. Ils sortent de chez eux et donc c'est ce qu'on appelle les IJAT, les indemnités journalières
d'éloignement.
D'éloignement.
Plus de 12 heures loin de ton domicile.
Voilà. Et donc, un CRS gagne très bien sa vie.
Mais il est jamais chez lui. Ça a été augmenté, je crois, récemment, les primes.
Oui, ça augmente régulièrement. Et d'ailleurs, souvent, on dit que les CRS vont disparaître parce qu'ils coûtent cher. Ils sont encore là. Et la plupart des CRS, d'ailleurs, sont en CRS et restent aussi en CRS parce qu'il y a un confort financier là-bas qu'ils n'ont. Enfin, oui, confort que financier, parce que ce n'est pas le reste. Enfin, voilà, ils ont des missions qui sont difficiles et qui sont astreintes à plein de contraintes. Il y a beaucoup de CRS qui ont des problèmes familiaux aussi, du fait de l'éloignement. Donc voilà, ça fait partie.
Donc c'est vraiment la motivation première du CRS, on va dire quand même que c'est là une a priori.
Non, je ne veux pas parler à leur place. C'est pas la première cause, mais en tout cas, in fine, une fois qu'on est dedans et qu'on a, entre guillemets, goûté à ça et qu'on supporte bien le métier, il vaut mieux rester là qu'aller en sécurité publique, il n'y a pas de doute.
C'est pas forcément toi qui décides de tes mutations. Et y a plusieurs facteurs. Il y a des entretiens d'évaluation interne avec tes supérieurs. Et puis, il y a le rôle prégnant des syndicats. Alors, les syndicats, j'ai l'impression que ça fait un peu la pluie et le beau temps dans la police.
Ça fait de la co-gestion, quoi. Ça fait de la co-gestion avec l'administration. C'est-à-dire que les syndicats, plus ils ont un pouvoir représentatif, c'est-à-dire plus ils ont d'adhérents, alors plus ils ont d'adhérents, plus ils ont de moyens, hein, parce qu'il y a des dotations après du ministère de l'Intérieur. Donc plus tu as d'adhérents, plus tu as de l'argent qui vient du ministère de l'Intérieur. Tu as des locaux, tu as des voitures, bref, il y a tout un ensemble de choses qui te permettent de faire ton métier. Et de ce fait, les syndicats, quand ils sont des gros syndicats, je prends Alliance par exemple.
Oui, alors il y a le SNUP, il y a Alliance.
Oui, il y en a plein. Après, on va prendre les gros chez nous, en gardien de la paix, c'est Alliance, UNSA et une TSGP. Voilà, c'est les trois gros. Et donc, eux, leur survie, elle tient au fait de garder leurs adhérents. Et donc, pour garder les adhérents, il faut pouvoir obtenir de l'administration des mutations, des primes. Alors là, on est sur la gestion individuelle des carrières.
C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas vraiment être flic sans être syndiqué, j'ai l'impression. Enfin, c'est très compliqué d'avoir une carrière... Une carrière normale si tu n'es pas adhérent à un syndicat, c'est ça ?
On ne peut pas dire jamais, parce qu'il y aura bien évidemment un fonctionnaire qui va vous dire « Moi, j'ai réussi à muter sans un syndicat. » Oui, bon, voilà, c'est les exceptions qui confirment la règle. Elles sont, elles sont très peu nombreuses. Donc, en majorité, et tout le monde le sait, c'est d'ailleurs pour ça que les policiers sont le corps le plus syndiqué de la police nationale.
Oui, la France se désyndicalise complètement. Dans la police,
ça bouge pas, ça puisque bouge pas. C'est eux qui font les carrières.
Ouais.
C'est-à-dire quand tu veux passer de lieutenant à capitaine ou de capitaine à commandant, là, il faut être ce qu'on appelle l'expression consacrée, c'est attaché au tableau, le tableau d'avancement. Donc, il y a des tableaux d'avancement où il y a une prise en compte d'un certain nombre de critères, le premier des critères étant l'ancienneté. Et ensuite, tu prends les plus anciens qui peuvent prétendre au grade de major, ensuite tu vas regarder les notations et puis et voilà, donc là tu vas voir...
Donc les notations, c'est
les notes qui sont rendues tous les ans par
les supérieurs.
Par les supérieurs hiérarchiques, exactement. Et après, il y a l'appartenance au syndicat. C'est-à-dire que si, par exemple, l'administration se retrouve avec... 20 postes à pourvoir et qui sont tous à peu près à équivalence. D'ancienneté et de notation, le plus gros syndicat remportera le plus de postes. Ça, c'est dans le meilleur des cas et on pourrait dire, c'est à peu près normal, ils en représentent plus, donc ils ont plus de postes. Sauf que très régulièrement, sur les mutations ou autres, on a des personnes qui sont moins anciennes et qui arrivent à muter parce qu'il y a eu des actions syndicales derrière. Voilà, ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, le rôle des syndicats là-dedans, pour moi, il est hyper malsain.
Toi, t'es syndiqué ?
Moi, je suis syndiquée et je suis représentante syndicale, les deux.
Alors, comment ça marche ? Du coup, tu travailles pour le syndicat ?
Je travaille pour le syndicat, je suis détachée de manière permanente pour le syndicat.
Donc, t'es toujours rémunérée par la police, mais ton travail, il est pour le syndicat ?
Exactement. C'est un syndicat qui existe au sein de la... FSU. La FSU, c'est une grosse fédération d'enseignants. Donc, c'est un syndicat qui est plutôt à gauche.
Oui, c'est un peu le syndicat de gauche de la police.
Voilà. Non, il y en a d'autres, mais... Non, parce que CGT aussi, CGT Police, tout ça. Nous, c'est la FSU. On est tout petit, donc on n'est pas représentatif.
Donc, vous n'avez pas trop de pouvoir sur les avancements ?
On n'en a aucun.
Qui dit pouvoir, et dans la police, il y a du pouvoir, dit corruption. Alors, il y a des corruptions un peu graves, et puis il y a des corruptions qui m'ont fait marrer, moi, je dois avouer. Par exemple, dans ton livre est mentionné des policiers qui trafiquent avec la boucherie du coin. Donc, ils échangent des places de stationnement sans PV contre de la charcuterie, globalement. Il y a des corruptions plus classiques, et qui ont l'air tellement classiques qu'elles ont un nom, les indulgences.
Pour les amendes ?
Faire sauter les PV. Le flic qui fait sauter les PV, quoi.
C'était le service qui faisait sauter les PV, mais qui les faisait sauter pour certains et pas pour d'autres.
Ouais.
Voilà. Et donc, pour certains,
Contre de l'argent, quoi, j'imagine.
Ou des rémunérations en nature.
Ouais.
Des caisses de champagne, on remerciait pour avoir fait sauter des PV ou autre.
Ça doit être très tentant, hein.
Enfin... Mais il y a une affaire en cours, là, il n'y a pas longtemps encore qui est sortie. Là, c'était sur une autre sorte de trafic, c'est sur pas les indulgences, mais les fourrières. C'est-à-dire que des flics travaillaient en cheville avec des fourrières pour mettre des enlèvements partout pour que ces fourrières-là puissent les récupérer et se faire payer.
Est-ce qu'on a déjà tenté de te corrompre ?
De manière directe, non. Ça ne m'est jamais arrivé. Après, quand j'étais au Bourget, on recevait aussi, pareil, plein de des chocolats, des parfums, des machins, des trucs. Alors, nouvelle année là-bas, c'était où ? C'était Noël. C'était Noël avant l'heure. Il y avait plein de choses. Est-ce que ça, c'est de la corruption ou pas ? Bon, en tout cas, c'était accepté et c'était encadré, parce qu'on notait tout ce qu'on recevait, etc. etc. Donc... je sais que ça faisait partie à la police aux frontières. Pareil, le directeur de la police aux frontières recevait de la part de l'aéroport de Paris. C'est pas forcément pour services rendus, c'est-à-dire de services qui sont illégaux, mais c'est dans le travail du quotidien, comme un partenaire à qui on va remettre des choses. Mais effectivement, on peut aider à ce que le trafic, pas aérien, mais le trafic des passagers en aérogare aille plus vite ou aille plus ceci ou plus cela. Et
On se fait bien avec la police, on fait des cadeaux poliment, sans que ce soit de la corruption.
Voilà, sans que ce soit considéré comme de la corruption active, en tout cas. Les stups, c'est autre chose.
Alors voilà, y a, après, il y a la rémunération des syndics, qui a pu donner lieu à plein d'affaires aussi.
Oui.
Des tontons, comme on dit.
Ouais, des tontons.
Et avec des affaires tellement entremêlées qu'on ne savait plus si le flic faisait bien son travail ou...
Ça, c'est encore l'affaire de François Thierry, par exemple. Bon, effectivement, quand tu as le directeur qui, lui, finit par voilà, avoir des rémunérations un peu étranges.
Il y a ça, et puis il y a le fait que les flics se retrouvent éventuellement à arrêter des gens, à faire des perquisitions, où il y a beaucoup de cash, d'ailleurs. Dans le livre, je crois que c'est Bilan, ton co-auteur, qui mentionne ce moment où, première perquisition, il y a du cash, et il y a un de ses collègues qui lui donne 100 balles, en lui intimant quasiment de les accepter. Mmh. Enfin, donc là, il faut, pour faire partie du...
Ah non, là, c'est pas de la corruption, là, c'est du vol. Il n'y a pas d'échange là-dedans, le mec n'a juste pas le choix.
Ouais.
Il va aller en prison et effectivement...
On
lui pique la thune du trafic, en tout cas. Et je ne doute pas hein, que dans les services qui s'occupent des stupéfiants, comme on n'a pas de moyens et que par moment, il faut aller s'acheter soi-même son micro, sa balise, son truc, son machin, etc. etc. Bon, bah, je veux dire, à un moment donné, l'argent de la drogue, elle sert aussi à payer des moyens pour que les policiers puissent travailler. Mais une fois qu'on rentre là-dedans, bon, et ben, de temps en temps, c'est 50 balles par-ci, 50 balles par-ça, et puis on va déjeuner, et puis voilà, ça devient...
Est-ce que tu penses que c'est inévitable ? Est-ce que tu le comprends, en fait ?
Je pense que c'est inévitable parce que c'est culturel. Est-ce que je le comprends ? J'ai jamais voulu aller travailler dans les stupes.
Enfin, ouais, y a des exemples très concrets alors, sur les pouvoirs des flics. D'ailleurs, il y a un des flics qui témoigne, qui parle, c'est très drôle comme exemple, de ce commandement qui vient de très haut. On lui demande de foutre les gyrophares et d'accompagner des bus de footballeurs pour qu'ils grillent les feux rouges. Et il ne veut pas le faire, du coup, il envoie des voitures qui s'arrêtent aux feux rouges, etc. etc. Mais donc, il y a une façon éventuellement, ou si ce n'est pas la police qui est tentée par la corruption, c'est éventuellement les pouvoirs politiques ou qui veulent se servir des pouvoirs attribués à la police.
Ah non, mais aujourd'hui, la police, elle est politisée, elle est instrumentalisée par le politique et non pas au service du citoyen. Donc effectivement, l'exemple que tu prends, c'est celui de Serge. Rares sont ceux qui osent dire non ou faire, je veux dire, tourner les choses en dérision et c'est très bien. Mais après, c'est eux qui en prennent plein la courge et puis après, ils ont des carrières qui sont compliquées où ils se font attaquer, où ils se font ostratiser. Et c'est ça qu'on voulait démontrer dans le bouquin par rapport aux lanceurs d'alerte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dénonces une infraction qui est commise, ça te retombe dessus. Et c'est pour ça que je dis que ce genre de comportement est inévitable parce qu'il est devenu culturel. Et que si on voulait changer la donne, ben aujourd'hui, je sais même pas comment on ferait, en fait.
Et t'acceptes de parler de tout ça, là, de la thune, des flics, alors que vous avez un devoir de réserve qui a l'air d'effrayer pas mal de tes confrères quant au fait de pouvoir prendre la parole sur un quotidien qui est partagé par 150 000 confrères.
Mm-hmm.
Pourquoi est-ce que tu prends ce risque et pourquoi est-ce qu'il est si terrifiant, ce devoir de réserve pour les autres ?
Alors déjà, ce risque-là, je ne le prends pas pour de l'argent. Il faut le savoir, hein, parce que écrivain, voilà, c'est des bouquins qui ne se vendent pas et qui sont dans des niches. Et donc, j'ai tiré quasiment rien de tout ça. Au contraire, ça m'a coûté cher, parce qu'aujourd'hui, je suis poursuivie pour violation du secret de l'instruction pour le premier ouvrage qui est sorti en 2018. Donc, ça veut dire des frais d'avocat, etc., etc. On ne prend pas le risque pour de l'argent, mais je sais que c'est parce que j'ai de l'argent que je peux prendre le risque. Donc, je reviens à ce qu'on disait au début de l'émission. Aujourd'hui, je suis dans une situation financière qui me permet de prendre ce risque-là. Parce que si j'ai besoin d'un avocat, et ça va arriver là dans pas longtemps, parce qu'ils vont venir me chercher des poux, j'ai l'argent pour payer les avocats. J'ai des ressources qui me permettent de potentiellement de faire un autre métier si je me fais virer ou etc. etc. Donc, ce risque-là, je le prends parce que j'en ai les moyens, parce que comme on disait au début, moi j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui avaient de l'argent et qui ont construit, entre guillemets, un capital financier et puis avec des donations, donc ce qui est pas le cas des flics, et c'est pas le cas de tous les Français, mais c'est pas le cas des flics non plus. Donc parce qu'il y a cette sécurité-là, parce qu'il y a encore mes parents effectivement qui sont en vie et que, je me dis que si un jour vraiment, je me retrouverai jamais à la rue. Donc j'ai cette chance-là et parce qu'aujourd'hui je suis avec un compagnon qui, lui, a des revenus, donc... C'est parce que j'ai de l'argent que j'ai pris ce risque-là. Et ce risque-là, je l'ai pris pour les flics, parce que ça reste quelque chose qui est dans notre ADN aussi de policiers, c'est défendre la veuve et l'orphelin, certes, mais c'est aussi ceux qui sont autour et qui essayent de faire progresser l'institution. Et aujourd'hui, c'est le bien-être policier, on n'en parle pas. Donc oui, bien évidemment, ils sont maltraités par la population, ils sont détestés, ils sont haïs, ils ont beaucoup de difficultés à faire leur travail dans le quotidien. Mais ça, on le sait quand on rentre dans la police, on sait que ça ne va pas être facile. En revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est les situations dans lesquelles on va se retrouver en interne et la merde que c'est en interne. Parce que contrairement aux gendarmes, justement, et je pense que les primes sont une raison aussi directe du côté très individualiste chez les policiers, qu'il y a beaucoup moins chez les gendarmes. Parce que les gendarmes, ils sont dans un collectif, parce que c'est un groupe, parce que ça fait partie de l'armée, ça fait partie de leur ADN. Et les policiers, c'est pas le cas. Et donc, quand t'es dans un système qui est quand même individualiste, c'est chacun pour soi et entre guillemets, Dieu pour tous, et que...
Donc avec des systèmes de carrière où un tel aura plus d'avancement, on sera mieux vu du syndicat, aura plus de primes, etc., etc. On connaît pas la prime du commissaire d'à côté.
Exactement. Oui. Voilà, tout ça, cet univers-là. Et que quand on a des problèmes, il faut pas en parler. Quand on en parle, on se fait désarmer. Quand on n'est pas d'accord avec les pratiques, on se fait aussi ostraciser, etc., etc. On tombe en dépression. Enfin, je veux dire, c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de suicides dans la police. Et je pense que c'est pas que dû à la mission policière, parce que sinon il y aurait autant de suicides chez les gendarmes, mais c'est pas le cas. Et encore une fois, si j'ai pu au fur et à mesure du temps écrire ces livres-là, me mettre en dispo pendant 2 ans, ne pas travailler, c'est aussi parce que je devais avoir, 20 ou 25 000 euros de côté. Et donc, je savais que j'allais pouvoir tenir un an et demi. Donc, je ne suis pas une grosse dépensière non plus. Hein. Quand Maggie Bukowski s'est suicidée, qui était une syndicaliste avec qui j'avais travaillé pendant 2 ans, et on lui a dédié le livre, là, j'ai travaillé 2 ans à la police aux frontières avec elle. Elle était dans une situation financière qui était pas évidente parce que elle prenait beaucoup sur son argent à elle pour faire son boulot son boulot, elle était pas syndicaliste, mais elle travaillait pour le mouvement des policiers en colère, qui était justement un mouvement qui n'était pas syndiqué et ça a posé beaucoup de problèmes. Et en fait, quand elle s'est suicidée, je me suis dit, merde, si elle en vient là, alors qu'elle n'a pas le choix et qu'elle n'avait pas d'argent et qu'elle faisait vraiment ça sur ses deniers, moi qui en ai, il faut que je le prenne ce risque-là. Et c'est ça qui a changé dans ma manière d'écrire le deuxième livre, parce qu'elle s'est suicidée quand j'étais en cours de rédaction du deuxième, et où j'ai commencé par dénoncer les modes de management dans la police et notamment dans le groupe de mineurs dans lequel j'étais.
Toi, tu te vois dans la police en disant ?
Non.
Tu vas la quitter ?
Ouais, je vais la quitter. Je passe devant le tribunal correctionnel en mars, là, 2023, pour la violation du secret d'instruction. Donc voilà, j'attends de voir, entre guillemets, ce que ça va donner pour orienter ma carrière.
Voilà, c'est terminé. Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production est assurée par Léo Milhomme, sur une musique d'Emma Bixon. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter partout, en France et à l'étranger. Merci à vous. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire des retours. On répond toujours. À bientôt.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.